Daria, je dois m'absenter ce soir.
Avec ce temps ?
Oui, je dois voir Auguste Nabel. Cela fait plusieurs soirs qu'il ne rentre pas chez sa nourrice pour l'heure du souper.
Très bien. Sais-tu l'heure de ton retour ?
Ne m'attends pas, mon amour. Je rentrerai probablement assez tard. J'apprête mon sac et je sors de notre logement. Je suis assez étonné. Depuis son arrivée il y a 4 mois, Nabel passait ses journées à rédiger ses mémoires. Je voyais cela d'un bon œil, lui qui n'avait aucune famille avec qui partager ses souvenirs et sa vie trépidante. Il était bon pour son moral de pouvoir les coucher par écrit. Mais il semble que cette activité l'ait replongé dans une spirale de soupçons, d'inquiétude. Sa nourrice me dit que ces dernières semaines, il devient obsédé par le canal, qu'il l'observe depuis les remparts ou en arpente les berges toute la journée. Et maintenant, jusque bien après la tombée de la nuit. Il fait froid et humide ce soir. La brume commence déjà à s'installer. Je vais essayer de le raisonner. À son âge, 79 ans, il ne fait pas bon rester dehors par ce temps. J'ai amené une couverture avec moi pour le réchauffer. Je descends vers le canal, ne croise que 2 personnes. À cette heure et par ce temps, ce n'est pas étonnant. Que diable fait Nabel dehors ? Je ne le vois pas le long des remparts. Je descends donc jusqu'au canal de Berry et l'aperçois assis sur un banc le long des quais. Je m'approche de lui en lui faisant un signe.
Eh bien, cher Auguste, que faites-vous dehors par ce temps ? Vous allez attraper la pneumonie.
J'attends mon homme, docteur.
Vous êtes, comme toujours, bien mystérieux, mon cher. Expliquez-moi, je vous prie.
Je m'assieds à côté de lui. Il ne me jette qu'un coup d'œil rapide et reprend son observation attentive des eaux et des 2 péniches arrêtées ici pour la nuit.
Si vous tenez à le savoir, j'ai appris par l'un de mes bateliers informateurs qu'un homme du nom de Payac est arrivé à Bourges par le train il y a 15 et a pour mission d'inspecter le canal, voyez-vous.
Ah, je vois. Et vous le connaissez, j'imagine ?
Si c'est celui auquel je pense, oui.
Et avez-vous des raisons de penser qu'il arrivera à Dun ce soir ? Ne viendrait-il pas plutôt par le train ?
Non. Dans nos professions, le meilleur moyen d'inspecter tout en restant discret est de se fondre dans le paysage, d'emprunter la piste que l'on suit. Il arrivera bien à un moment, et je compte bien être là pour l'accueillir.
Dans ce cas, je reste avec vous pour ce soir. Ah, je suis responsable de votre sécurité, voyez-vous. Je dois veiller à ce que rien de fâcheux ne vous arrive.
Il soupire.
Comme vous voudrez, docteur.
Je sors la couverture de mon petit sac. Je la partage avec lui. Je m'attendais à des réticences, mais étrangement, il l'accepte volontiers. Quelques minutes après, Nabel me chuchote.
Dites, docteur, avez-vous déjà croisé un animal brillant dans la nuit ?
Un ver luisant, vous voulez dire ?
Non, une bête fantasmagorique, comme sortie des enfers.
Pour ma part, non. Et vous ?
Vous lirez cela dans mes mémoires. Je me demande parfois si le gamin travaille toujours sur son bateau, avec sa poudre qui brille dans le noir.
Mais ce Payac, comme vous le nommez, comment le connaissez-vous ? C'est un collègue ?
C'est une manière de voir les choses. C'était un jeune homme extrêmement opiniâtre, prêt à tout pour monter en grade. En 1871, il voulait faire du zèle à Paris. Je l'en ai empêché, et il en a gardé une profonde rancœur. C'est lui qui m'a dénoncé à Thiers. Martial Payac. Je n'oublierai jamais ce nom. Quand Thiers m'a convoqué, il m'a lu la lettre dans laquelle Payac affirmait que je cachais l'identité de communard. Il voulait me voir fusillé, j'en suis certain. Le médecin de l'asile où je fus enfermé m'en parlait souvent de ce brave Martial qui venait lui demander régulièrement de mes nouvelles. Le médecin pensait qu'il s'inquiétait de mon sort, mais je le savais bien. Payac venait voir si j'étais enfin devenu fou, si ma fin était proche. Et il arrive ici pour les mêmes raisons, n'en doutez pas. Je veux pouvoir le voir descendre de sa péniche et l'accueillir comme il se doit, en lui rappelant ses traîtrises.
Nabel a les yeux qui brillent, animés d'un feu que je ne lui avais jamais vu. Dites-moi, Auguste, pensez-vous qu'il viendra ce soir cependant ? Il est 21h passées. Mes études de médecine m'amènent à penser que même les traîtres dorment à un moment. Votre gaillard dort, c'est certain. Allez, tenez, prenez mon bras. Je vous raccompagne à votre logement. Nabel se lève et grimace en s'appuyant sur sa canne.
Penseriez-vous qu'après toutes ces années, cette fichue entorse se réveille à mon bon souvenir ?
Allez, camarade, appuyez-vous sur moi. Vous serez bientôt dans votre lit à l'abri de cette humidité.
Vous savez, docteur, je me souviens de cette femme qui m'a dit un jour que le canal amenait des spectres de l'ouest. Je me dis qu'elle a peut-être raison. Mais ces spectres-là, ce sont les pouvoirs publics qui les envoient pour nous tourmenter. Tous les canaux de communication, du télégraphe au canal, même le chemin de fer, tout est prétexte à étendre l'hégémonie de leur pouvoir, à nous maintenir sous son joug. Je me dis parfois, ce canal puisse-t-il un jour être comblé et disparaisse, que leur pouvoir s'affaiblisse.
Peut-être Nabel a-t-il raison. Peut-être ses moyens de communication et de déplacement, peut-être la modernité et le progrès seraient-ils toujours un outil pour l'hégémonie du pouvoir. Mais je crois que la modernité peut avoir du bon aussi. Je vous comprends. Cependant, quand je vois ces quantités de matières premières qui transitent par ce canal, quel autre moyen pourrait transporter autant de marchandises aussi aisément ? Non, mon cher, à mon avis, le canal n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas demain la veille qu'on remplacera le transport fluvial.